Un monde tire à vue. Laurent Héroux, Pauline Sauveur.
C'est Pauline qui en a eu l'idée, c'est elle qui a dit « Et lire au prieuré de la Charité-sur-Loire, ça te dirait ?» Elle avait parlé avec Eva, qui ouvrait un café éphémère sous les arcades du vieux bâtiment pendant l'été. C'était un lieu qui m'avait toujours séduit, il tranchait avec la région. Chaque fois que j'allais chercher quelqu'un à la gare et que l'on traversait le pont sur la Loire, je l'interrompais. Les gens qui sortent des trains ont toujours des choses à dire. Et je lui disais de regarder en arrière vers l'abbatiale, d'admirer la vue sur les toits de la Charité. Généralement, les gens se retournaient automatiquement pour me faire plaisir sans interrompre leur discours. Ils regardaient en hochant la tête, mais je voyais bien qu'ils s'en foutaient. Moi, à chaque fois que j'arrivais à la Charité en venant du Cher, j'étais sans voix devant la vue sublime, le vieux pont, les toits de la ville qui se chevauchaient les uns les autres, le prieuré magnifique, le paysage de la Loire, et souvent des bandes de nuages fines et légères comme de la ouate qui s'effilochaient le long des ardoises. En hiver, avec la brume, on pensait tout à la fois à Prague, à Londres et au Moyen-Âge. En hiver, il n'y avait personne sur le pont que l'on traversait sans difficulté. Les arbres cristallisaient le long de la route, la Loire oscillait entre le cobalt et le bleu marine. En hiver, le Cher et la Nièvre se rejoignaient à cet endroit précis et je faisais le pont d'une région à l'autre, heureux d'y vivre. Pauline avait exposé les possibilités. Eva voulait programmer des événements, ce serait plutôt en fin de semaine ou le week-end. Pauline aimait le vendredi soir et je n'étais pas contre, j'avais dit oui, bien entendu. J'aime lire ce que j'écris. On avait créé un collectif, Pauline et moi. Il y avait un troisième membre au projet initial, mais qui s'en désintéressait suffisamment pour qu'après 2 ans d'existence, Pauline et moi revendiquions la paternité du concept. On s'appelait Public Averti, on proposait des expositions et des lectures. J'avais écrit un manifeste, Pauline s'occupait des supports de communication et l'on faisait ensemble un sacré boulot. On réunissait des artistes et des écrivains, on proposait des soirées et des vernissages, on savait faire. J'avais envoyé 2 photographies à Pauline, l'une d'une carte postale de Nice que j'avais reçue le lendemain du 14 juillet et un portrait de moi à Marseille, la plage. J'avais proposé à Pauline de faire de même sans nous consulter et que nous mettions en commun nos propositions. Ce serait la base de cette lecture que nous allions faire le 12 août au prieuré. Pauline avait joué le jeu et comme je le pressentais, nos images se répondaient, comme nos mots se répondent.
Parfois, les mains me tombent des bras. Parfois, la fatigue les lance et ils tombent. Le coffret, là, sur la table, la compilation de poésie contemporaine, petit coffret, 12 livrets reliés, Gallimard quand même, blanc, sobre, et une touche de couleur en dégradé, sobre et joyeux, 12 auteurs et non des moindres, pour partager, comprendre, lire, découvrir, se faire une vue d'ensemble, une idée de ce que c'est la poésie contemporaine, la poésie vivante de maintenant, d'aujourd'hui, d'hier et d'aujourd'hui, alors... Je lis les titres, les noms, les livrets, les auteurs, les prénoms et à mesure l'espoir, non mais tu vois, trop conne, l'espoir d'une parmi ces hommes qui dirait qu'on avance, tu vois, doucement, mais trop conne, trop naïve, trop facilement, qui ne râlerait pas, si même une seule unique, Gallimard quand même, je lis sans incliner la tête, je lis la tranche, ceux que je connais de nom, ceux qui me disent quelque chose, ceux que je ne connais pas et qui font que je suis ravie de ce cadeau du coffret. Celle qui aurait pu être là m'aurait ravie autant, j'ai la satisfaction modeste, 1 sur 12. 1 seule et 11, ça serait bien, ça serait un début. Un bon début, ça serait encourageant, ça serait nécessaire et j'en serais même reconnaissante et soulagée et contente et satisfaite. Mais tout à coup, le sursaut, fichu réflexe, nom de nom, mais tu vois de quoi tu te contenterais, bordel, mais de presque à peine, de presque rien, c'est dire. 1/12, 1 sur 12, 1 et 11, alors que... Imagine, réfléchis une seconde, un instant. Mais si, réfléchis, imagine 12 femmes. Pas la foule, ni l'académie, ni la horde, ni le collège, ni l'assemblée, non, juste 12, un groupe. Un petit groupe, c'est petit, 12. C'est par définition un choix, un échantillon représentatif. En raison des thématiques d'un univers, d'une écriture, d'un domaine, d'une caractéristique, employons les mêmes arguments, strictement les mêmes, qui président au choix difficile, parce que c'est difficile, le choix de 12 sur l'immensité, quand même, c'est compliqué de trancher, de définir qui sont ces 12 contemporains qui existent parmi tous, Par contre, pour couper tout, pour effacer, ne pas voir, par contre, pour les 12 contemporaines qui existent quelque part, mais où, dira-t-on, nulle part, me répondra-t-on, ça, c'est facile, ça, c'est naturel, c'est habituel, c'est constant. 12 contemporaines qui existent elles aussi, mais pas assez, tu vois, elles existent en invisible, en souterrain, en silence, c'est ça, fermez vos gueules, les femmes, là, ça suffit. Elles n'en seront pas du groupe, aucune raison, pas de place dans ma jolie petite anthologie Gallimard. Non, pourtant, 12, disons-le, c'est rien, répétons-le, c'est une miette, une goutte, 12 femmes, c'est pas la mort quand même, 12. Alors, c'est ça. Reprends-toi, reprends le rêve, le postulat, fais un effort. Cet effort-là, 12 femmes qui représenteraient la poésie contemporaine, qui en parlerait à toi, qui attend qu'on t'en parle justement, pas la poésie au féminin ou la poésie des femmes. Ou la poésie par les femmes, ni même le pire du pire, la poésie par les femmes pour les femmes. Non, juste 12 pour la poésie contemporaine. Petite somme, pas la Pléiade non plus. La poésie, juste un choix valable et représentatif. Et les bras m'en tombent des mains du corps parce que je me rends compte encore et de plus en plus souvent que c'est impossible, non envisageable, que 12 femmes fassent représentation, fassent autorité, puissent résumer la poésie générale, générique, globale, banale, même à la con, c'est ça, disons-le, répétons-le, pour la poésie à la con, c'est non, pas une seule fois, jamais, de nulle part, mais comment voulez-vous, t'es folle ou quoi? Aucune, car aucun, personne ne supporterait ce qu'on accepte continuellement, que 12 femmes représentent la poésie pour tous. Pour nous tous ici, pour les autres, pour vous et moi, pour nous, pour les humains, les hommes, les masculins, que 12 d'entre elles représentent la foule des écrivains poètes qui écrivent la poésie aujourd'hui. Pas un, je crois, n'envisagerait sérieusement, sans le remarquer, le noter, le dénoncer, sans crier au scandale, à l'usurpation, à l'infamie, au parti pris, à la mainmise, à l'hystérie, parlons-en, l'hystérie des femmes qui oseraient se placer en échantillon. Qui engloberait le masculin au nom de quoi, je vous le demande, alors que moi, inversement, je l'ai tellement, alors que nous, nous l'avons totalement intériorisé, cette représentation générique par l'autre moitié, la moitié qui dicte et confirme, intégrée, tellement intégrée, au point de devoir lutter, je dois lutter pour ouvrir mes yeux, pour regarder mathématiquement ce qui se passe, s'organise partout chaque jour, lutter parce qu'encore trop souvent aveugle. Gentille, conciliante, douce, sage et polie, bien élevée, c'est exactement ça, bien élevée, éduquée, pour ne pas voir la disproportion absolue répandue permanente. 12 poètes, c'est toute la poésie, et 12 poétesses, ça serait juste une connerie. Et puis on s'en fout de la poésie, qu'est-ce que tu crois? Les mots, la poésie, la littérature, hein, ces conneries, oui. Il y a ceux qui disent ça. Et il y a ceux qui s'indignent, mais enfin, mais voyons, mais pas du tout, pas du tout, enfin, mais la poésie, enfin, voyons, la littérature, les grands mots dans les grandes bouches, les grands cris des grands hommes et des grandes femmes. Pourtant, souvent, ce sont des petites, petites natures, hein. Il y en a souvent qui trouvent quand même, par exemple, quand même, que le mot écrivaine, bon, bah, ça les gêne. Parce que non, mais tu vois... Il y a veine, tu sais, veine, le truc vain qui sert à rien, ça sonne quand même assez mal à l'oreille qui saigne, écrivaine. Alors, juste une précision, hein, déjà, l'accord, bon, un adjectif, s'accorde en nombre et en genre. Hein. Pardon, vous m'excuserez, mais si les écrits sont vains, nuls et non avenus, c'est au masculin. Alors, les écrivains, hommes et femmes, écrivent des écrits vains et non des écrits vaines. Faudra accorder les violons avec le nom quand même. Bon. Nonobstant le fait qu'on peut trouver des pièces vaines, oui, et des nouvelles vaines, et des chroniques vaines et non martiennes, oui, bon, mais des écrivaines, c'est carton jaune de la grammaire où je m'y connais pas, non, parce que sinon, ou alors, c'est pas un adjectif, c'est un nom, c'est des veines, comme veines des écrits et des veines qui irriguent le tout, des veines et des artères, oui, non, mais. C'est pas ça, mais moi, tu sais, moi vraiment, ça me gêne, les écrivaines, ça me choque les oreilles, c'est pas beau, alors voilà, hein, excusez-moi encore, hein, mais si on part du côté lacanien, de la logique du tout et n'importe quoi, à l'ombre du sens caché, ok, hein, mais on n'a pas fini, faudra éviter sacrément des mots, des verbes et des conjugaisons à ce compte-là, tiens, pour commencer, converge, oh, bah, y a verge, et puis, et habite, habite, ah, mais y habite, allez savoir si elles sont au pluriel, ah, et fabriquons, bon, y a bris, c'est bon le bris, hein, mais y a con, voilà, concupiscent, on en parle, c'est con, ça pue, ça pisse, et c'est carrément indécent à l'oreille si on y réfléchit, alors que dire de cacatoès, et de cucurbitacé, et de renoncule, hein? Alors, mesdames, oui, parce qu'il y a des dames écrivaines à l'audition délicate qui en parlent même dans des émissions que je n'ai pas vues, mais j'ai ouï dire moi aussi, et les présentateurs notamment de ces émissions littéraires, parce que oui, en plus, elle était littéraire, l'émission consacrée aux femmes qui écrivent, mais qui ont les oreilles fragiles et sans humour. Alors pour les chastes oreilles qui sursautent au bruit des professions féminisées pures et simplement retrouvées, après effaçage et branchitude académicienne patriarcale du XVIIe siècle, habituez-vous, entraînez-vous, petit exercice de langue, répétez après moi, écrivaines, écrivaines célèbres, les écrivaines illustres de langue française. Marguerite Duras était notamment une écrivaine célèbre et indocile. Georges Sand, une écrivaine prolixe et engagée du 19e. Marguerite Yourcenar fut la première écrivaine élue membre de l'Académie française en 1980. Et Simone de Beauvoir était aussi une philosophesse. Ah ben voilà, après le vin, voici la fesse, on n'a pas fini. Hein. Mais quand même, sérieux, dehors dans les rues du monde, il y a des trucs qui sonnent autrement plus douloureusement, non ? Il y a des bruits autrement plus tristes et dérangeants pour les oreilles, non ? Le discours des bottes et de la mère de Brune à la droite de la droite du bien-pensant, il y a le bruit des missiles et leurs explosions, loin, très loin, il y a le souffle à peine audible de ceux qui dormiront dehors encore ce soir, dehors à deux rues d'ici. Alors un petit effort, la langue, l'oreille, tout ça, hein, ça devrait être jouable.
Benoît m'avait écrit qu'il me raconterait le 14 juillet. Il était sur la trajectoire du camion blanc qui avait traversé la foule. On avait parlé de balles factices, mais il avait écrit qu'il avait évité les rafales de justesse, qu'elles avaient frôlé sa tête. Ce n'était pas le genre à se vanter, Benoît. Je lui parlais de la paralysie et de l'effroi probable que je ne connaissais pas, que je pouvais tout juste imaginer. Il avait dit que non, il n'y avait pas eu de paralysie et qu'il avait beaucoup appris sur lui-même ce jour-là. C'est là qu'il avait dit « je te raconterai ». Il devait venir au mariage, le mien, qui aurait lieu en septembre. Il devait y venir avec son copain Thomas et sa mère, Yveline, qui, à la suite de l'événement, le 14 juillet, avait fait un infarctus. Elle m'avait écrit en sortant de l'hôpital que c'était trop pour elle. Il y avait d'autres éléments qui l'avaient épuisée les semaines précédentes, qu'elle n'y arrivait plus, que son corps lâchait, qu'il envoyait un message pour lui dire de mettre le holà, qu'elle ne le mettait pas, aussi le corps avait-il pris la décision de se mettre en pause quelques instants, le temps qu'elle veuille bien l'entendre, elle, Yveline. Elle avait marché jusqu'à l'hôpital en priant pour ne pas mourir sur le chemin, ce que son père avait vécu, le grand-père de Benoît. Elle avait été prise en charge à peine entrée dans l'hôpital et racontait-elle, c'est cela qui l'avait sauvée. Elle ne reproduisait pas l'histoire familiale. En survivant à son propre accident, elle tirait un trait sur la culpabilité qu'elle gardait de l'enfance quand le père avait pris la voiture sentant l'infarctus venir et s'était éteint sur la route, tandis qu'impuissante, elle attendait de ses nouvelles. Elle m'avait écrit qu'elle ne viendrait pas au mariage, qu'elle s'en faisait une joie, mais que ce n'était plus possible, il lui fallait du repos, elle était vivante, c'était le plus important. Elle me parlait de la manière la plus franche qui fut, de la même façon que je lui parlais, et elle m'avait remercié ensuite de la vérité de nos échanges, la mère de Benoît. Benoît, j'en avais été amoureux, inconsciemment, sans le comprendre. Je vivais avec un autre homme à Nice. Je vivais avec un homme qui travaillait avec Benoît, et j'avais rencontré Benoît par son intermédiaire, et nous étions devenus amis. Il y avait une fascination réciproque et un respect mutuel entre Benoît et moi. Il vivait lui aussi avec un autre homme que le Thomas d'aujourd'hui, et la relation s'était construite entre nos deux couples jusqu'à ce que je quitte l'homme qui partageait ma vie et que Benoît rencontre Thomas. On s'était vus à Paris, je l'avais emmené à Bruxelles où depuis il se rendait régulièrement, nous avions ri beaucoup et peut-être pleuré sur le passé, mais pas tant que ça. Avec Benoît, le mouvement était vers l'avant, jamais en retour nostalgique, plutôt en réflexion constructive. Il y avait eu des disputes dans sa vie avec d'autres amis qu'il analysait avec justesse. Nous ne savions pas encore qu'il y en aurait une majeure entre nous et que nous ne nous parlerions plus pendant plusieurs années, ou de temps en temps à travers des SMS qui n'allaient pas au fond des choses. Sa venue au mariage était importante pour moi parce que nous allions nous retrouver et que j'allais lui présenter mon futur mari. Je connaissais déjà Thomas de mon côté. Yveline, que j'avais invitée la première, m'avait dit que je faisais fausse route concernant son fils. Elle m'avait appelé, elle m'avait demandé si j'avais invité Benoît. Je lui avais répondu que je ne pensais pas que ça lui ferait plaisir, que Benoît appartenait à un passé, qu'il ne me regardait plus. Qui plus est, il travaillait encore avec l'homme qui partageait ma vie alors, et je me disais, suivant l'expression consacrée, qu'il avait choisi son camp, puisque nous ne nous parlions plus, l'homme qui partageait ma vie et moi. J'avais demandé des explications qu'Yveline ne m'avait pas données. Elle avait simplement dit, invite Benoît, si ça te fait plaisir, ça lui fera plaisir à lui aussi. J'avais confiance en elle. J'avais appelé Benoît, j'étais tombé sur son répondeur, j'avais laissé un message. Il avait répondu par la positive et quelque chose en moi qui était fermé depuis mon départ de Nice s'était rouvert. Ils avaient réservé dans une chambre d'hôte du Cher, Yveline et son mari, Benoît et Thomas. Nous n'avions pas assez de place à la maison pour y accueillir tout le monde, hélas. Ils avaient hâte, les uns et les autres. J'avais rencontré Yveline à la Roque d'Anthéron début juillet où je donnais une lecture de mon journal pendant un festival. Elle s'y était rendue avec son mari, emmenant dans sa voiture l'ami qui m'avait envoyé la carte postale de Nice qu'elle avait postée la veille du 14 juillet et que je recevrais le lendemain de l'événement tragique comme un pied de nez au destin, un rappel de ma vie d'avant. Sur la carte postale, on pouvait voir l'appartement que j'habitais enfant avec mes parents et mon frère. Nice, c'était mes racines, plus que le Cher où je n'avais pas vécu enfant, seulement des séjours de vacances dans la maison de mes grands-parents que j'habitais à présent et qui, dans mon discours et mes écrits d'aujourd'hui, représentaient mes vraies racines. Le 14 juillet et la carte postale reçue le lendemain de l'événement tragique remettaient les choses à leur place, pas toutes les choses, mais certaines choses, le passé d'Yveline, l'existence de Benoît et mon histoire.
Et les yeux. Après les bras, les mains, j'en ai plein les yeux et j'ai la rage parfois. La rage, oui, c'est à peu près ça. Je me dis, je crie merde à la fin, mais imagine un monde. Tu te réveilles chaque matin, tu allumes la télé, le présentateur, jeune, un peu incertain peut-être enfin, mais souriant, ça oui, et sa chemise un peu ouverte, un tout petit peu plus que la normale, tu sais. Juste ce qu'il faut et qui fait le beau pour les titres. Et une femme, heureusement, sérieuse, élégante, qui reprend la main, qui attaque le sujet, tu vois, le vrai, l'énoncé du problème, parce que le petit jeune, là, bon, ça va 5 minutes. Elle se tourne vers ses invités. Oui, ses invités, EES, les expertes. Les expertes avec qui on va sérieusement discuter, politique, économique, relations internationales et stratégie nationale. Sans un regard pour l'autre, un peu godichon, là, mais joli à voir, faut dire, hein, qui fait des efforts et tout. Mais il y a du boulot encore, un monde. Tu éteins la télé et tu attrapes un magazine, un journal sérieux, comme il faut, bien structuré, avec un vrai regard éditorial. Dossier spécial loi travail. Enfin, un reportage de fond et l'avis de 4 grands noms. Les visages se partagent un quart de la couverture, 4 regards qui te regardent droit dans les yeux avec ce qu'il faut de conviction et de sourire pour vraiment te donner envie de l'ouvrir ce magazine. Parce qu'enfin, tu vois, cette loi, tu veux comprendre en quoi exactement elle consiste, tu veux des arguments. Alors, cette couverture alléchante, 4 personnalités qui connaissent leur sujet, 4 femmes, philosophes, économistes, écrivaines, journalistes, politiques. Un mec là-dedans, pourquoi faire? Aucune chance et surtout aucun intérêt, non, franchement, comment ça, le travail concerne tout le monde? Bah justement, c'est sérieux, on va un peu encore les écouter étaler leurs problèmes d'hormones et de mécanique et toutes ces conneries du quotidien. Tu feuillettes et tu tombes sur cette pub, tu sais pas encore si elle te fait sourire ou pas, mais oui, c'est vrai qu'elle est bien mise en scène, l'image est léchée, c'est sûr, on voit le jeune beau, encore un jeune, toujours beau, encore heureux, avec la peau satinée de 3/4 allongée à peine sur les coudes. Dans l'immense escalier, chemise ouverte, manches retroussées pour qu'on puisse admirer le bombé du biceps et le tatouage coloré. Il est nu à part ça, c'est osé, c'est porno chic, jambes écartées, c'est très bien fait, ouvert, offert. Normalement, on devrait voir son sexe étalé là en pâture, mais non, une bouteille de parfum installée ou peut-être pas, même pas, dominée par la femme. Sévère, la puissante qu'il a sous la main à portée de main pour une bouchée de pain, son regard à lui presque implorant, la bouche entrouverte entre plainte et envie, humiliant. Bah, comment ça humiliant? Mais non, tu rêves, c'est pour vendre. Regarde un peu le travail sur la lumière, le traitement, le décor et celui sur le contraste des matières. Non, je vois pas, c'est super bien fait. Où est le problème? Une page Sur les dernières discussions à l'Assemblée, l'article relate l'intervention du jeune député vedette et note sa nouvelle coiffure. Il a coupé sa mèche rebelle, un encart pour les réflexions légères sur fond vert. Ça lui va bien, il fait plus jeune. Après tout, pourquoi pas, du moment qu'il ne remet pas ses cravates ridicules. Faut sourire dans la vie, mon bichon, détends-toi. Mais bon, revenons aux choses sérieuses. Si tu entendais leurs réflexions qui fusent hors champ, hors micro, si tu étais là pour écouter ce qu'elles disent quand c'est l'autre, là, le gros qui prend le micro, plus si jeune, déjà vieux, qui s'échauffe, qui défend des idées qui n'ont plus cours, des idées humanistes, les sarcasmes alors dans les couloirs. Non mais sérieux, tu l'as vu. Il a grossi, non? Et sa calvitie, ça s'arrange pas, il doit bander mou, c'est sûr, à son âge, la question se pose plus, c'est l'andropause. Bon à jeter, c'est pas comme les petits nouveaux, charmant, charmant, tu vois? Tu vois, tu es à peine réveillé et c'est déjà plein les oreilles, plein la vue, les pubs qui défilent sur les panneaux alors que tu prends le bus. Le mec et son yaourt sur le cul, cambré, indécent, il attend qu'une chose, qu'on lui tombe dessus et qu'on lui fasse son affaire. T'as vu, son affaire, c'est peut-être pas ce qu'il dirait, mais un homme qui dit non, c'est pas toujours vrai. Et puis, il l'aura bien cherché en mini-short, là-haut, et puis c'est qu'un yaourt, c'est quoi ton problème à la fin? Tu descends à la supérette, tu attrapes ta blanquette, recette à l'ancienne, et puis à la caisse, ça traîne parce qu'une vieille râle contre le caissier qui a les yeux effrayés. La responsable du rayon arrive, et puis la directrice, dans ton ferme, elle rassure la cliente, elle lui offre un avoir, et d'une voix sévère réprimande le caissier qui reste droit, muet, ses collègues jeunes et vieux s'écrasent. L'affaire est close, le pauvre, tu te dis, mais il y en a plein, Pôle emploi, des mecs prêts à n'importe quoi, à n'importe quel boulot, survivre, on va pas pleurer sur tout le monde non plus. Tu arrives au bureau, idem, les commerciales, les dirigeantes et les apprentis dirigeantes mènent le jeu dès la machine à café, l'entente est visible. Les liens sont implicites et évidents, ça sourit dans les couloirs par-dessus ton épaule, on est de la même race de celles qui dominent. Quoi le plafond de verre? C'est quoi encore ces conneries? C'est pour les sociologues, je vois pas de quoi tu parles. Tous les matins, tous les jours, tous les soirs, plein les murs, les vidéos, les mots, les propos des mecs inférieurs, partout, chaque fois, mais regarde-les aussi. Tout en bas, chaque fois, de l'échelle, objet du désir, de la chair à dévorer. C'est donc que c'est vrai aussi, puisque c'est comme ça partout, à chaque fois, depuis si longtemps. Tout le monde, tout le temps, ne peut pas que se tromper continuellement. Comment ça invisible? Mais pas du tout, il y en a partout. Au contraire, regarde-les, ils en jouent tout le temps sur les plateaux télé, les publicités, les talk-shows, ils minaudent, se dénudent, arrivent dépoitraillés, comment veux-tu, sont pas crédibles non plus à se balader comme ça, donc à refuser, mignon mais cervelé, charmant mais trop con, tu sais, ou trop vieux et inutile dès qu'un peu sérieux, si peu nombreux et puis de toute façon mal baisés, hein. Personne n'oblige personne, ils sont payés, non? Oh mais ça va, mais t'es pas drôle, tu supportes rien. Et si t'es noir? Et si t'es gay? Et si t'es pauvre, et si t'es basané, si t'es handicapé, si t'es d'une minorité? Mais les hommes ne sont pas d'une minorité, de quoi tu parles? Comment ça pas représenter? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh mais tu me saoules, fais chier. Tu vois, du matin au soir, un monde. Et le correcteur d'orthographe qui propose dépoitrailler automatiquement au féminin. Et mal baiser aussi, évidemment. Évidemment, un monde.
Avec Jean-Pierre, nous descendions souvent sur la promenade des Anglais. C'était une balade rituelle après le dîner ou quand on avait besoin de s'aérer. Nice est une ville curieuse parce qu'elle est coincée entre la mer et la montagne. Très vite, à Nice, on a le sentiment d'être en prison. Nous habitions une impasse qui plus est aussi. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Une fois sorti de l'immeuble, il fallait rejoindre l'avenue Gambetta. L'autre côté de la rue se terminait par un rocher impressionnant. Et partir soit à droite vers la mer, soit à gauche vers les collines. On pouvait aller tout droit aussi, traverser la ville d'ouest en est, mais on aurait buté à terme sur une autre colline, celle de Cimiez, qui, avec celle qui surplombait notre appartement, encadrait la ville. Nice est une ville carrée, un seul de ses côtés est mouvant, trompeur. Un seul offre une issue trompeuse, elle aussi dangereuse, inutile, la mer. On descendait sur la promenade des Anglais, Gambetta débouchait à quelques mètres de l'hôpital Lanval, par lequel le chauffeur du camion blanc emprunterait l'accès réservé aux piétons et écraserait la foule. On se posait sur les chaises bleues, un banc, parfois la rambarde usée par le temps, et on regardait la mer. On se disait que l'on s'aimait, mais que l'on n'y arrivait plus. On se faisait du mal certains jours, et on était heureux certains autres. On dégustait une glace les soirs de canicule, on buvait un café sur une terrasse que l'on payait trop cher chaque fois. On râlait pour le principe, pour la qualité de service déplorable et les prix exorbitants. On enviait Paris tout en sachant que ce serait la même chose. Je rêvais pourtant d'y remonter, d'y revivre. Jean-Pierre disait qu'on irait un jour, mais on n'y allait pas et je l'avais quitté. La promenade des Anglais propose un paysage magnifique au coucher du soleil, entre l'aéroport, dont on devine l'éclairage des pistes dans le vent marin du soir, et la colline du château qui recueille les derniers rayons de soleil et se pare d'un orangé profond qui vient contraster avec le bleu roi du ciel de la Côte d'Azur. Lorsque l'on a vécu à Nice, on n'en oublie jamais les couleurs inimitables. Le rouge du vieux Nice, le vert des persiennes, le jaune de quelques façades des vieilles places qui rappellent l'Italie, le bleu profond du ciel, le vert des pins qui se découpent sur l'azur comme un décor, l'émeraude de la mer quand il y a du vent, le gris sale des galets qui éclatent sous la lumière crue de l'été. Nice est une ville trompeuse, elle aussi, dangereuse, parfois inutile. Elle s'enracine dans un passé trouble, un comté de Nice dont la France ne voulait pas, une Italie qui voulait s'en débarrasser. Nice est au bout de la France, elle se venge du pays en affichant en toute saison un soleil insolent sur les cartes météorologiques des chaînes de télévision. On la hait pour cela dans le reste du pays, son carnaval est célèbre dans le monde entier, mais la France le refuse. Les batailles de fleurs de la Belle Époque font rêver les touristes. Une foule excitée s'y presse tout le long de la promenade des Anglais, enfants en quête d'un bouquet pour leur mère et adolescents dans l'espoir d'apercevoir le haut de la cuisse des filles en maillot de bain sur les chars. La foule y descend aussi le 14 juillet pour apercevoir par-dessus la mer calme, tirée depuis les barques des pêcheurs, le feu d'artifice traditionnel.
Un monde. Sous tes yeux, les miens, j'évite en fait, j'évite, je me retiens de projeter, de rentrer l'idée dans le ventre et l'image dans l'œil du cerveau. Par lâcheté, par faiblesse, par peur, paresse, j'évite. Et je tiens à distance les infos, les mots, les pourcentages, mais reste le message, le fond, le problème de fond. On s'en doute, je me doute, tu t'en doutes bien, mais voilà quand même le monde. Si tu prends les filles du monde entier, la moitié des grands-enfants, celles qui ont entre 15 et 19 ans, elles sont grandes, mais elles sont enfants techniquement, au lycée, plus ou moins. C'est l'âge terrible des groupes, des clans, des camps, des cigarettes et des boutons, des joints, des mains, des seins sous les t-shirts fluo. C'est les hormones, l'amour, le désir, les préservatifs. C'est loin. Pour moi, c'est loin. C'était tellement. Non, c'était pas la joie, ni une référence. Vraiment pas, voilà. Entre 15 et 19, c'est l'avenir dans tous les cas, l'avenir du monde. Flou et incertain, c'est pourtant eux qui feront demain, qu'on le veuille ou non. Alors elles, celles qui en sont, celles qui devraient être au lycée, tu vois, ta gamine, ta voisine, la fille de ta frangine, les nièces, les copines que tu trimbales au ciné, la brochette à l'arrière de la bagnole, tu vois, la même que la tienne. Alors, la première cause de mortalité des filles dans le monde, sur toutes les filles du monde, sur toutes les lycéennes qui meurent à 15 ans, à 16 ou 19 ans, c'est le suicide. Comment écrire le désespoir d'une vie qui ne vaut plus la peine? Et c'est pas les mots d'ailleurs, c'est pas qu'elle ne vaut plus, c'est qu'elle n'est pas, qu'elle n'en finit pas d'être invivable à cause de l'immense et infinie violence, la douleur, les maux inhumains, la maltraitance, l'esclavage, les blessures. C'est le viol du présent et la mort de l'avenir, d'un jour différent, d'un seul autre jour qui ne serait pas pire. C'est demain qui n'existe plus. Et qui fait que c'est toujours mieux le pont, le train, le tram sur le corps, la voiture, c'est toujours mieux la mixture qu'on avale et qui ferme les yeux, les poignets en lambeaux, la fenêtre ouverte. Au moins, là, c'est la fin sur laquelle on peut compter. C'est la fin douce ou pas, mais sûre et certaine. Et puis qu'est-ce que c'est, trois étages, la fenêtre enjambée, c'est rien, c'est mieux, voilà, pour elle, c'est ça le mieux, le simple, le projet, l'avenir, c'est ça, parce que l'espoir n'est plus possible. Tu crois ça? Plus d'espoir alors que... C'est ce qui au moins nous tenait, au moins permettait, c'est ce qui brûlait dedans l'espoir. Il n'en reste rien, pas une goutte, pas une trace pour toutes ces filles qui devraient être vivantes, qui devraient être au lycée les jours de semaine. Leur mortalité des filles qui devraient être au lycée, c'est la mort volontaire, plutôt que de vivre la vie invivable. Et c'est juste avant, juste devant la mortalité à cause de la grossesse et de l'accouchement à l'âge du lycée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me tiens à distance, celle de l'encre ou de l'écran sans ouvrir les vannes, les yeux mi-clos pour lire froidement la liste interminable des violences faites aux femmes et aux filles, ces êtres de valeur moindre, de non-valeur à punir qu'il faut forcer, réprimer, sévir contre l'ordre même du réel du féminin, qui est ce vagin qui cache cet utérus maudit, interminablement maudit. Ce corps à réduire à néant, à réduire en cendres, qui coûte encore trop, qui coûte son pain et son eau croupie. Ce trou qui saigne tout le temps, qui saigne toujours de son sang sale. Ce corps autour du vide, cette béance qui rugit en silence. J'en suis là, si bien tranquille, à désespérer, à refuser de laisser entrer l'information. Ces viols, violences qui démembrent l'idée même de la femme humaine. Moi, pas mieux, pas différente, ce trou que d'autres pénètrent, remplissent de leur haine. De la haine de leur désir du corps dont ils viennent, de leur mépris pour l'objet à désinguer à toute force tout ce qui est pénétré, l'autre, cet autre sexe, ce trou, cette béance irréductible, sans limite ni retenue quant aux moyens, une femme autour de ce vide, une fille, un bébé, un pédé, d'ailleurs pareil, un homo, une jeune fille, une vieille, réceptacle du pire de l'homme et de sa bande qui bande, qui aide le pire de celui qui s'érige, qui comme son pauvre sexe se dresse et s'y réduit, qui perd tout ce qui lui reste dans cette vie d'humain, qui pourtant continue, trafique, vend et revend, assassine. Le désespoir de cette double peine, car peine il y a, peine sans fin, sans fond, la punition qui incombe au corps de ces femelles, alors que même le chien, le bœuf, la vache, la chèvre et l'animal ne sont pas. L'animal n'est pas coupable. Il est matière et force, protéines informes, vagues, rapport poids, eau, transport, mais il n'est pas coupable d'être. Il n'est pas ce sexe maudit. Et je désespère, moi qui suis comme elle, seulement ici, ailleurs, dans le monde meilleur, comptable de ce vide originel. Elles sont miennes et je ne peux presque rien écrire, presque rien, c'est presque rien écrire, c'est ce que j'ai dans les mains, écrire, c'est ce qui me reste. Lire, écrire et m'écrier, il me reste un stylo et de l'amour et la chair. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Un monde.
Entre 2010 et 2013, j'ai vécu avec un garçon syrien. Il avait quitté son pays il y a 17 ans, il en avait 20 à peine quand je l'ai rencontré. Il voulait faire des études, il voulait quitter la terre de ses parents pour pouvoir vivre son homosexualité à Paris. Il avait des rêves aussi grands que ses yeux sombres. Il avait atterri à Amiens où il avait suivi des cours pendant 2 ans, puis il avait rejoint Paris, avait trouvé du travail et avait arrêté les études. Il pointait une fois par an dans un commissariat où son titre de séjour était renouvelé pour 1 an. Il avait fait une première demande de nationalité française qui lui avait été refusée. Il continuait à pointer dans le commissariat du 12e arrondissement parce qu'il avait un hébergement social dans le 13e fourni par la boîte qu'il employait. Il payait des impôts, bien entendu. La guerre avait commencé quelques mois après notre rencontre, mettant un terme prématuré au voyage en Syrie que l'on prévoyait ensemble, où il me ferait découvrir les beautés du pays qui, à ce jour, n'existe plus. Il parlait d'Alep, qu'il aimait beaucoup. Il pleurait quand les murs s'effondraient. Il disait que sa famille allait bien. Il leur parlait sur Skype. Il s'indignait quand la télévision diffusait un reportage partial au sujet de Damas ou de Bachar al-Assad. Il retraduisait les phrases qui venaient d'être dites et dont le journaliste détournait le propos. Il jurait en arabe et frappait du poing sur la table. Puis il fumait un pétard et quittait l'appartement pour faire l'amour avec quelqu'un d'autre que moi. Je l'avais quitté après m'être pacsé avec lui. Ce n'était pas un geste désespéré ni une union arrangée. On s'était pacsé parce que l'on y croyait. Il disait que j'étais devenu sa famille en France. Il espérait encore qu'on lui donnerait la nationalité française sans pour autant n'effectuer aucune démarche dans ce sens. Il y avait quelque chose de mort dans ce garçon jeune, comme le pays dont il était originaire. Il s'effondrait peut-être avec les murs qu'il avait vus grandir, comme d'autres avant lui, victimes d'autres guerres et de leurs traumatismes, s'étaient effondrés. Il regardait le terrorisme avec un œil dubitatif. Il ne comprenait pas que l'on s'engage pour le mal. Il ne comprenait pas les Européens qui partaient faire le djihad. Il ne comprenait pas les Arabes qui dénigraient le pays qui les avait accueillis. Il ne comprenait pas la violence, il disait qu'il avait eu peur du racisme en arrivant en France et qu'aujourd'hui c'était de certains Arabes qu'il avait peur. Il était homosexuel, il savait qu'il n'avait pas sa place dans le monde musulman. Il était de religion catholique de toute façon. Lorsque nous allions manger chez des amis, quelqu'un s'excusait toujours de lui avoir servi du porc, à quoi je répliquais que c'était moi qui étais musulman, ce qui n'était pas vrai, mais mon grand-père, celui qui avait acheté la maison dans le Cher, l'était, lui. Mes racines à moi plongeaient dans le Coran, celle du garçon syrien, absolument pas. Il avait voulu acheter un appartement à Pantin. Il avait demandé un crédit que la banque lui avait refusé alors que toutes les démarches préalables étaient favorables à son dossier. Il avait accusé le coup. Quelques jours plus tard, il avait eu l'approbation de sa demande de nationalité française et le mois suivant, on lui proposait un appartement de la ville de Paris grâce au 1% logement de l'entreprise qu'il employait et dans laquelle il prenait du galon. Il travaillait comme un dingue depuis notre séparation et à nouveau, il y croyait. Il m'avait envoyé un message le 15 juillet. Il espérait qu'à Nice, où nous nous étions rendus ensemble à plusieurs reprises, tout le monde allait bien, mes amis, ma famille. C'était le cas. Benoît aurait pu y passer et Thomas avec lui, mais ils avaient eu la chance que d'autres n'avaient pas eu. Je n'avais plus de nouvelles de Jean-Pierre, mais quelqu'un m'aurait prévenu s'il était descendu sur la promenade des Anglais ce soir-là. Ma mère avait regardé par la fenêtre, on voyait les lueurs du feu d'artifice par-dessus les toits de sa maison, mais les arbres se penchaient dangereusement et elle avait dit à mon père qu'il y avait trop de vent pour se rendre au feu d'artifice. Ils étaient restés devant la télé jusqu'à ce que les sirènes retentissent dans la ville. Tout le monde disait qu'après l'événement tragique, la ville était comme morte. Le soir du feu d'artifice sur la Loire, il avait plu sur la foule mélangée du Cher et de la Nièvre, dont je faisais partie avec mon futur mari. Mais nous étions restés malgré le mauvais temps pour regarder les lumières magnifiques de la Révolution se refléter sur le fleuve.